Pour ce Radio Barque numéro 3 de la 7e saison, notre invité est Guillaume Heras. Alors aujourd'hui, troisième partie, nous aimerions justement, on a fait connaissance avec le maire de Saint-Marcel, premier vice-président de l'agglo du Grand Narbonne, mais qui est Guillaume Heras au quotidien? Tout d'abord, dans vos loisirs, comment, puisque vous en avez quand même un peu, j'espère pour vous, comment meublez-vous, Guillaume Heras, vos loisirs?
Alors effectivement, j'en ai pas autant que je voudrais. Je crois, moi, un peu comme tout le monde, hein, bien sûr, enfin, j'aime bien marcher, les grands espaces, hein, la pêche, hein, les champignons, mais enfin aussi les repas familiaux, ou entre amis, la pétanque, enfin, ça varie en fonction des saisons.
C'est difficile aussi à cause de la pandémie aujourd'hui,
oui,
quand il s'agit de la pétanque et des repas de famille.
Ouais, ouais. Ouais.
Mais sinon, est-ce que vous êtes sportif ou est-ce que vous avez été sportif?
Ouais, j'ai été sportif du dimanche, enfin, voilà, joueur de foot, un peu, à Cuxac.
Mais forcément, à un moment, il faut choisir entre le maillot et puis la casquette de l'élu, peut-être également. Sur le plan artistique, est-ce que vous aimez, je ne sais pas, le cinéma, le théâtre, la littérature, la musique? Est-ce qu'il y a quelque
j'aime
chose
le cinéma,
qui, vous,
la
qui
musique
vous attrape particulièrement?
Des années 70, j'ai vu samedi dernier formidable film de Josep sur la Retirada, qui est une passion d'ailleurs. Formidable film, très, très dur et qui dépeint beaucoup ce qu'ont pu vivre mon grand-père et ma grand-mère.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez des ancêtres qui l'ont vécu.
Oui.
Donc vous y êtes particulièrement sensible.
Particulièrement attaché, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on se disait. Ils n'ont pas partagé ça. Ils n'en ont jamais parlé avec mon père, jamais avec moi. Et donc, je le retrouve des années après, en imaginant ce qu'ils ont vécu, en voyant, en retraçant un peu le parcours. Et puis, ce film-là de Aurel, Josep, montre bien ce qui s'est passé dans les camps et comment ont vécu ces républicains espagnols à l'arrivée en France et comment
rappelons se sont intégrés. Que pour les comme disait Aznavour, pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas comprendre, c'est 1939-40.
Oui, hein, février 1939, oui. 600 000 exilés espagnols arrivent en France en deux jours. Et puis, voilà, l'État français ne sait pas forcément les gérer. On est dans une situation politique,
plus,
voilà,
oui, oui.
Et ces Espagnols derrière eux ont les troupes de Franco avec des fusils, voilà, et donc on échange beaucoup. Je suis très heureux qu'il y ait une association narbonnaise, l'Athénéo du Narbonnais, qui travaille cette mémoire, mais pas que, aussi la couleur de l'Espagne. J'ai habité en Espagne, à Madrid, j'ai encore de la famille là-bas, donc c'est une association dans laquelle j'ai plaisir à participer, en tout cas à les voir évoluer. Ils proposent pas mal de choses, hein. Ils seront à Saint-Marcel, donc ça fait partie un peu de
oui, donc il y a une petite part d'Espagne à Saint-Marcel, ouais, qui vit.
Ouais.
Et alors, ce que vous disiez, Guillaume Heras, c'est intéressant parce qu'on va le retrouver dans plein d'autres contextes, des gens qui ont énormément souffert, et le premier de leurs soucis, c'est de faire semblant d'oublier, en tout cas de ne jamais en parler.
Ouais.
Quand est-ce que vous avez découvert ces choses-là? Parce que c'était le blackout, si je comprends bien, dans votre enfance.
Je l'ai découvert quand j'ai perdu mon grand-père et que je me suis intéressé à ce qu'il avait été dans sa vie beaucoup plus jeune et comment il était arrivé en Espagne avec ma grand-mère.
Ouais. Oui, jamais il y a eu des petits détails qui trahissaient une souffrance ou...
Bien sûr. Et loin de moi le fait d'affirmer une idée là-dessus, mais mon grand-père ne rentrait jamais dans une église.
C'était un républicain.
C'était donc la réaction de cette douloureuse histoire espagnole et de la façon dont l'Église en Espagne s'est comportée avec Franco. Certains, attention encore une fois,
oui,
je ne rentre pas
oui.
du tout et je ne fais pas d'amalgame. Et voilà, des choses comme ça. Et puis mon grand-père qui n'est jamais retourné en Espagne, qui est parti en 39.
Même après la démocratisation.
Jamais. Ouais.
Ouais. Et pourtant, vous le disiez, Guillaume Heras, vous avez gardé de la famille.
Ah oui, j'ai
que
encore
vous
de la famille
à l'occasion.
En Andalousie, à Madrid, donc voilà. Et moi-même, j'y ai vécu. Et pourtant, il n'a jamais fait ce lien inverse.
Ouais. Oui, mais on m'avait raconté des choses semblables. Les gens qui ont, par exemple, vécu les camps de concentration.
Ouais.
La guerre de 14-18, les poilus qui l'ont vécu dans les tranchées, qui ont survécu, apparemment, quand ils rentraient, la première des choses qu'ils s'efforçaient de faire, c'est de faire semblant d'oublier, de ne jamais en parler. Ce qui doit dénoter une certaine souffrance terrible qu'on veut cacher, quoi. C'est un peu comme si on prenait de l'aspirine tous les jours pour oublier le mal de tête. Et alors, en revenant dans la vie quotidienne, vous êtes chargé de l'environnement, ça veut dire qu'on a forcément une conscience écologiste dans ces cas-là, plus ou moins. L'écologie d'aujourd'hui déborde pas mal sur la vie animale, justement à propos de souffrance, sur la souffrance animale. Est-ce que vous avez une conscience et un intérêt particulier pour la vie animale, par exemple ?
J'ai toujours été... Alors ça va vous faire rire, peut-être, mais... Quand je vais à la pêche, je suis incapable de tuer un poisson. Alors, oui, effectivement. J'ai des chats. Je me suis jamais réellement posé la question sur ce sujet.
Par exemple, mon grand-père
était chasseur et je comprends complètement cette tradition et cette approche. Pour autant, je ne le suis pas et donc j'entends beaucoup. Ce qui me dérange, c'est qu'on oppose tout le temps les sujets et on n'essaie pas de comprendre la vie et l'histoire
de, faire la part
l'histoire
des choses,
de chacun.
Oui, en fait,
bien sûr. Bien sûr que la cause animale. Dans les cirques et la souffrance animale est à proscrire et qu'il faut se pencher véritablement sur le sujet. Après moi je suis effectivement un peu comme tout le monde avec deux chats
oui voilà. Les animaux domestiques,
bien sûr,
voilà. Mais les animaux domestiques en général c'est pas ceux qui souffrent le plus.
Non, je peux vous dire que non.
Voilà. Par rapport à ceux dont on parle, notamment pour les cirques, oui. Comportement dans la vie courante, monsieur Heras, est-ce que vous êtes superstitieux? Certains élus le sont, notamment par exemple quand ils sont en campagne.
Non, je le suis pas, mais je trouve qu'on a une on a des phases, hein. Il y a des journées qui se passent mieux que d'autres, hein. Et donc le temps des fois est plus propice à l'accumulation de bonnes nouvelles et d'autres non, mais je le suis pas, je crois en notre énergie. Il y a des matins où on se lève, voilà, on est à fond, on a la patate et bonnes nouvelles arrivent, et d'autres où il faut être un peu plus en dedans et un peu plus en réflexion et attendre que les choses passent. Voilà.
Mais là, c'est une question alors d'être optimiste ou pessimiste. Je crois que vous êtes plutôt optimiste. Vous avez
oui,
une façon d'aborder
oui, ben bien sûr,
les choses.
Bien sûr.
Selon ce qu'on a pu. Puis quand on est élu.
Mais vous savez pourquoi je suis optimiste? Parce que il faut tout recaser dans son contexte. On est en France. On a une république.
Oui, c'est pas le pire des pays, même si de temps en temps.
Mais il faut bien sûr, il faut remettre en question les choses. Il faut constamment se re-questionner, constamment se remettre en question. Il faut constamment se fixer des objectifs. Mais il faut aussi rêver. C'est comme on le fait à l'agglomération. Il faut rêver notre territoire. Il faut rêver notre commune. Et il faut être ambitieux, sinon on n'avance pas. Mais on est en France. On est à Narbonne, sur un territoire extraordinaire. On a la chance d'avoir beaucoup de choses. Et puis, voilà, on pourrait être dans des pays sans aucune... Je regarde la Corée du Nord, je regarde la Russie, voilà, bon...
Vous choisissez les meilleurs.
Et puis, on est dans le sud de la France. Alors, il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est le froid. Voilà. Donc là, on approche l'hiver. Moi, j'adore, la chaleur, le soleil, bon... Mais oui, je suis optimiste parce qu'on a les moyens de l'être ici. Bien sûr qu'il faut, bien sûr qu'on le sait qu'il y a des choses qui marchent pas dans la société, qu'il faut revoir, il faut constamment être en mouvement et s'adapter. Voilà.
Oui. Optimiste. Est-ce que à chaque fois que ça va un petit peu moins bien, vous vous dites, tiens, je me rappelle mon grand-père et je repars pour un tour?
Alors,
quand, en comparant son sort et le vôtre.
Je compare pas à sa vie, mais je me dis que j'ai la chance d'avoir eu ce legs et que je dois en faire quelque chose. Voilà. Et donc, alors, vous parliez de superstition. Moi, je vais vous dire, je me trouve extrêmement gâté par la vie et donc obligatoire d'en faire quelque chose parce que mes aïeux, mes parents m'ont transmis quelque chose.
Sinon, voilà. Ça serait du gâchis.
Exactement, et je me dois de le transmettre à mes enfants et à ce qui m'entoure. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a des associations sur le territoire qui sont tournées vers les autres, hein, et je trouve qu'elles font un boulot remarquable. Voilà.
Oui, donc l'altruisme est une valeur pour vous fondamentale.
Oui. Mmh. Ouais.
Eh bien, c'est sur cette note résolument optimiste qu'on va conclure. Merci Guillaume Heras pour avoir animé cette troisième partie de notre Radio Bar qui était également, je le rappelle, le troisième.
Merci.
Les prochains invités sont un peu dans la même lignée, des gens qui ont un peu créé la surprise en étant élus récemment. Gérard Forcada, le maire de Lézignan-Corbières. Et après quoi, nous recevrons également le nouveau sénateur de l'Aude, Sébastien Pla. Merci en tout cas à vous, merci aux auditeurs et à la semaine prochaine.
Merci.